D'accord. Donc cette intervention porte sur l'énonciation narratoriale dans Le Cousin Ponce. Et il s'agit d'étudier ici, donc en se basant d'un point de vue théorique sur les travaux d'Éric Bordas et notamment de Christelle Coulot, comment cette énonciation narratoriale est complexe et polyphonique, peut constituer un régime de signification en étudiant les discours du narrateur, le schéma d'interlocution dessiné vis-à-vis d'un narrateur et la dimension métadiscursive du récit, sachant que ces trois aspects peuvent se croiser. Et j'ai donc parlé ici d'abord des marqueurs de la subjectivité du narrateur qui peuvent nous faire dire qu'il y a discours, donc je résume ce que j'ai dit rapidement, l'expression d'un jugement, notamment d'un jugement affectif, mais cette expression d'un jugement peut se mêler aussi à différentes autres visées esthétiques, création d'une tension narratoriale, classement du personnel romanesque, etc. Donc après avoir vu les adjectifs et la ponctuation, je parlais des phrases exclamatives nominales qui peuvent permettre d'une part de mettre en valeur le prédicat, mais aussi tout simplement, ce sont des phrases qui sont connues pour mettre l'accent sur la fonction émotive, si je reprends les termes de Jacobson, de la prise de parole. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment spécifique aussi, me semble, au Cousin Ponce, ou en tout cas c'est plus marqué dans Le Cousin Ponce, c'est que les phrases ou syntagmes exclamatifs qui montrent cette subjectivité, cette appréciation du narrateur, fonctionnent souvent comme de véritables intrusions du discours dans le récit, de manière très marquée, avec l'exclamation qui sert à commenter ce qui vient d'être dit ou dit. Par exemple, on retrouve souvent le syntagme « chose étrange », point d'exclamation. Chose étrange, il se sentait à l'aise à l'hôtel Popinot, rue basse du rempart, sans doute à cause des objets d'art qui s'y trouvaient. Chose étrange, les gens du peuple ont peur des officiers ministériels comme ils ont peur des restaurants fashionable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on avait un cas où cette exclamation est avant la phrase indépendante qui suit, mais elle peut aussi intervenir au milieu de la phrase, dans des cas d'insertion. Et vraiment, là, ça accentue l'effet irruption du discours et du commentaire dans le récit. Je cite, je vais peut-être donner les pages, peut-être plus facile, page 115. « Les deux amis avalèrent, chose étrange, dans les brasseries de Strasbourg, de la manière la plus stupide, la plus vulgaire, etc., etc., l'héritage. » Et de même, on note de la même manière la récurrence d'une interjection comme « hélas », qui peut soit former un énoncé à elle seule, soit prendre place comme insertion dans une phrase. « Hélas, il lui prit des frissons en pensant que son indépendance tenait à de si grands sacrifices, et il se sentit capable des plus grandes lâchetés pour continuer à bien vivre. » Page 64. « Hélas, Ponce n'osa pas avouer à Schmuck que chez lui le cœur et l'estomac étaient ennemis. » Page 71. « Plus ces deux êtres allaient, plus vives étaient leurs souffrances intimes. Hélas, il en est ainsi chez les natures chastes. » etc. Page 72. Et avec des cas d'insertion, donc comme je disais, « Mais hélas, la présidente, fille du sieur Thirion, n'avait jamais bien traité le petit cousin de son mari. » Page 78, j'ai coupé la citation. « Les glaces des pastels laissaient voir nettement les œuvres de Latour, de Greuze et de Lyotard, l'illustre auteur de la chocolatière, le miracle de cette peinture, hélas, si passagère. » Page 134. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces occurrences interviennent quand Ponce et Schmuck sont mentionnés dans le récit, quand leurs souffrances sont mentionnées. Et ces interjections en général, expriment alors d'une part la subjectivité du narrateur et son empathie vis-à-vis de ses personnages, mais peut-être aussi la souffrance des personnages. Et c'est les cas que je mentionnais de brouillage énonciatif, parce qu'on peut se demander quand est le discours du narrateur, quand est le discours indirect libre, avec l'émotion du narrateur et des personnages qui se rejoignent, ce qui peut encore accentuer l'effet d'empathie créé par les interjections. Et cette indétermination des subjectivités peut aussi porter sur certains adjectifs. Je citais l'adjectif « funeste », et dans certaines phrases, on peut vraiment se demander à qui l'attribuer. Je cite « Aussi, toutes les fois que Schmuck se trouvait au logis, quand Ponce s'habillait, le bon Allemand déplorait-il cette funeste habitude ?» Ici, l'adjectif « funeste » peut aussi bien relever du point de vue du personnage que celui du narrateur. « Funeste », dans un certain cas, exprimerait la tension narrative. Cette façon qu'a Ponce d'aller dîner qui va le perdre, ou exprimer l'inquiétude de son ami. Donc, on a vu ici les marqueurs de cette subjectivité. Cette subjectivité ici qui se caractérise dans Le Cousin Ponce par un discours aussi très empathique, ce qui peut aller de pair avec, encore une fois, le classement romanesque, le roman feuilleton, mais on retrouve aussi un discours, je dirais, classique du narrateur balzacien, le discours d'historien, le discours de moraliste, qui implique une certaine posture énonciative d'un locuteur qui se caractérise par une supériorité cognitive et ou morale vis-à-vis de ses personnages, mais aussi vis-à-vis du lecteur, et qui doit donc adopter un certain discours didactique. Et cette posture énonciative singulière se caractérise par la récurrence d'un triple lexique, celui de l'observation, de l'explication et de la compréhension. Ces lexiques qui permettent de dessiner en filigrane le portrait du narrateur en écrivain observateur moraliste. Un lexique qui n'est pas toujours mobilisé à la première personne, mais des fois convoqué plus indirectement par des formules comme « aux yeux du moraliste », page 66, « tout véritable écrivain », page 68, et par des jeux de comparaison plus ou moins directs. L'omniscience du narrateur est mise en valeur par l'aveuglement des personnages qui ne savent pas voir. On le sait, c'est l'incipit du cousin Ponce, bien sûr, mais aussi des formules, l'emploi du conditionnel passé deuxième forme, par exemple, qui permet de dessiner en filigrane un regard plus affûté que les personnages. Je cite, page 130, « Un homme moins absorbé que Ponce dans son contentement, un homme du monde, un homme défiant, eût observé la présidente et sa fille. » Bien entendu, celui qui observe en filigrane quand Ponce n'observe pas, c'est le narrateur. « C'eût été terrible comme un regard de tigre pour un observateur. » Page 166, de même, encore une fois, l'observateur ici, c'est le narrateur. Et ce regard est donc assumé par le narrateur qui décrit ce que les personnages n'ont pas pu remarquer. Le narrateur est celui qui sait et qui doit donc expliquer pour faire comprendre. Et on peut relever rapidement quelques exemples qui illustrent l'omniprésence de ce lexique. Un mot à comprendre, page 53. Le plus difficile à faire comprendre, page 72. Pour comprendre, 95. Cet inventaire explique pourquoi, 80. Pour expliquer, page 108, etc. etc. Et cette posture explicative peut impliquer directement un narrateur, vous comprenez, page 185, et viser à créer une complicité narrateur-narrateur due à une connaissance partagée. On a des expressions comme « pour être dans le secret », page 84. Et ce qui crée aussi cette complicité, c'est certains connecteurs syntaxiques, bien sûr, mais aussi, par exemple, le présentatif « voici », qui est très présent dans le cousin Ponce et qui allie à la posture didactique un geste de monstration qui renforce l'impression d'oralité et aussi de complicité. Voici comment, page 73, voici pourquoi, 176, voici sur quelle observation, 185, or voici, 186. Je prends surtout des exemples, hein, je me permets de dire, vu que c'est une intervention stylistique, qui sont dans la partie de l'œuvre au programme, la partie stylistique. Ce présentatif a également un effet de structuration du discours didactique puisqu'il annonce une explication à venir comme d'autres marqueurs rappellent une explication passée, comme on l'a vu, etc. Et on le sait aussi, c'est une caractéristique assez classique de Balzac, ce discours didactique se manifeste également par une tendance systématique à l'élargissement et aux digressions. On a plusieurs digressions dans le cousin Ponce, la plus longue étant la digression sur les sciences occultes, 71-78, et on peut également noter la digression métalinguistique sur l'avilissement des mots, 226-227. Et là, je vais citer à nouveau Éric Bordas, c'est la démarche du narrateur, je cite, « La démarche du narrateur procède toujours du particulier vers le général, de l'individuel vers l'universel. La fiction est pour lui prétexte à tirer des conclusions, à dégager des théories sur la vie, sur les hommes. » Et on le voit dès l'incipit, dès le premier portrait de Ponce, qui est le prétexte à plusieurs généralisations. Et on a toujours ce mouvement de généralisation du passage du singulier, généralement un personnage au pluriel. On passe ainsi de Schmuck à tous les pianistes, page 69, de Ponce à Schmuck à les naturchastes, page 112, de la Cibo au consultant général, 182. Et cette généralisation dépasse la catégorie que peut représenter le personnage, puisque le narrateur excède même l'effet type par des maximes à visée plus générale. Je cite « En médecine, le cabriolet est plus nécessaire que le savoir », page 217. « Il n'est pas de pays où on soit si sévère pour les grandes choses et si dédaigneusement indulgent pour les petites », page 60. « La table est à Paris sous ce rapport les mules de la courtisane », page 64. « Le monde se répète en toutes choses partout, même en spéculation », page 96. Et ces phrases relèvent cette fois-ci d'un discours de la doxa qui dépasse les personnages singuliers du récit et elle se caractérise stylistiquement par leur concision. Ce sont des phrases simples qui privilégient un rythme binaire par des formules impersonnelles, par l'emploi du verbe être, par le présent gnomique et un vocabulaire abstrait. Et ce point est saillant par exemple avec l'usage de majuscules, les exigences de la gueule, gueule avec majuscule, la table est à Paris sous ce rapport les mules de la courtisane, table avec majuscule. Mais donc ce discours sérieux du narrateur, le discours d'historien, de moraliste de la doxa, ne doit pas occulter les effets d'ironie dont le narrateur balzacien est coutumier. Ça, c'est encore une fois quelque chose de classique dans les discours du narrateur, mais il y a, à mon sens, un brouillage des tonalités, un mélange de tonalités contradictoires dans le cousin Ponce, comédie terrible, qui est quand même assez particulier, et qui crée une ironie aussi assez particulière. Ces effets d'ironie, si on prend leur manifestation stylistique, sont nombreux. Agnès et Silvestri a montré, donc ça c'était dans une intervention sur la langue de Balzac dans Le Cousin Ponce, une intervention en juin dernier, et ça va être publié assez bientôt. Elle a très bien montré un exemple qui est assez frappant, comment l'ironie pouvait se dessiner en mention autour du terme fillette, qui est d'abord employé par Madame Camusot comme une sorte de stratégie de mise en valeur de sa fille. Le narrateur nous le dit, ironiquement, tous les mères appellent leurs filles qui ont 23 ans des fillettes. Donc là, ici, le diminutif va d'ailleurs avec le diminutif de Lily, hein, c'est cacher l'âge déjà 23 ans très avancé de sa fille. Et donc le mot au départ, l'italique, nous indique tout simplement qu'il s'agit d'une parlure, d'un discours rapporté, voire d'un discours indirect libre, lorsque on a une phrase comme « il aimait la fillette », le mot semble renvoyer à la parlure de Madame Camusot, mais l'effet de discours apporté se mêle à un effet d'ironie très fort qui atteint son apogée lors de la dernière occurrence du terme. C'est lorsque Cécile est refusée par son Werther, quand ses parents déclarent qu'elle est fille unique, et le narrateur nous dit « il semblait que la présidente eût avoué que sa fillette était épileptique ». Et là, bien entendu, le rapprochement des deux termes, le terme qui est censé être un terme de séduction et le terme épileptique crée un effet de contraste très ironique. Au-delà des mentions, l'ironie prend souvent la forme d'insertion qui fonctionne autant de commentaires. Et l'ironie, alors comme le dit Christelle Coulot, non pas dans sa thèse, mais dans son article dans le volume Ironie balzacienne, l'ironie balzacienne ou le roman au second degré, donc je la cite, l'ironie est discours du récit, elle commente ce qu'elle rapporte, elle évalue ce qu'elle met en scène. Et je donnerai juste rapidement quelques exemples. Lorsque Schmuck raconte à Ponce qu'il est très aimé, qu'il croit être très aimé des grandes dames auxquelles il a jadis donné des leçons, mais qu'il n'est pas reçu chez elles depuis 3 ans. Et le narrateur précise, à l'intérieur d'une parenthèse, et cette disposition typographique accentue le caractère méta-énonciatif, le caractère commentaire, je cite, « Il est vrai que Schmuck se présentait chez ces grandes dames à 10 heures du matin. » Et fin de la citation, page 103. Et l'ironie discrète souligne le décalage, bien sûr, entre les mœurs du naïf Schmuck et celles des dames du grand monde. Et on a aussi d'autres commentaires. Par exemple, un savoureux commentaire qui explique avec ironie l'amour de l'art de l'ancien ministre Popinot, je cite, « L'ancien ministre avait, depuis son avènement en politique, contracté la manie de collectionner les belles choses, sans doute par opposition à la politique qui collectionne secrètement les laides. » Fin de la citation. Et si cette ironie est déstabilisatrice, c'est parce qu'elle entre en concurrence ou au moins en contrepoint avec les autres discours du narrateur que nous avons mentionnés, le discours pathétique. Notamment, alors sans tout citer, bien sûr, il y a ambiguïté du discours du narrateur par rapport aux personnages de Ponce et de Schmuck qui sont à la fois pleins et moqués. Cette moquerie peut passer par des commentaires ou par des images grotesques. Juste un exemple, mais lorsque par exemple Schmuck regarde les merveilles, le narrateur parle bien de merveilles, donc commentaires positifs de Ponce, et il les regarde, je cite, comme un poisson qui aurait reçu un billet d'invitation regarderait une exposition de fleurs au Luxembourg. Donc ici, bien sûr, image grotesque qui mêle les régimes animal, végétal, etc. Et donc cette ironie mine ce discours pathétique, le remet en question, mais aussi le discours sérieux et même la posture narratoriale, voire auctoriale, puisque le sérieux du narrateur peut être mis à mal, par l'ironie, mais par certaines dérobades. Et il me semble que c'est particulièrement présent dans Le Cousin Ponce. Le discours affirmatif omniscient du narrateur peut alterner avec des marqueurs d'incertitude, sans doute, peut-être à cause d'eux. C'est un ton qui laisse souvent la place au doute et au mystère, ce qu'on peut peut-être lier à la tension narrative spécifique du roman feuilleton. Par exemple, la fin du chapitre 66, « Puis il souffla dans l'oreille de la Cibot un mot, un seul, que personne ne put entendre, et il descendit avec les deux marchands dans sa loge. » Page 287. Là, le « que personne ne put entendre », pas même le narrateur balzacien. Cela peut nous étonner. Et bien entendu, c'est la pirouette finale, excusez les fautes du copiste, puisque en remplaçant auteur par copiste et en donnant l'idée de faute, donc de doute, dans toute cette narration, le narrateur semble annuler avec désinvolture toute l'énonciation sérieuse qu'il a construite précédemment. Alors, bien plus rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, j'ai déjà parlé du fait que cette énonciation impliquait forcément un narrateur, un interlocuteur. Et l'expression, enfin, c'est quelque chose de classique hein, qui a été souligné des Bienvenus sur le fait que tout discours est adressé, mais dans Balzac, c'est marqué, puisque le texte balzacien présente la particularité d'inscrire ce narrateur dans le texte, un narrateur qu'on distinguera du lecteur, hein, puisque le narrateur est l'instance énonciative inscrite dans le texte qui peut correspondre ou non au lecteur réel, et c'est bien sûr les jeux de décalage avec le lecteur réel qui font aussi tout l'intérêt. C'est encore lié à toute la dimension métadiscursive qu'on a soulignée. Je cite encore Éric Bordas. Ces inscriptions du narrateur, figurant l'acte de réception du texte, peuvent et doivent se lire comme des énoncés métadiscursifs par lesquels le discours vient prendre en charge le fonctionnement du récit. Donc là, encore une fois, je vais étudier des marqueurs très formels de ces marques du discours du haut narrateur qui implique le narrateur et peut-être le lecteur dans le roman. Alors tout d'abord les pronoms, hein, bien sûr, les déictiques les plus classiques attendus de l'interlocution, les pronoms personnels qui interpellent le narrateur qui peut être convoqué par le pronom « vous », qui est souvent employé dans le roman dans une perspective qui peut paraître seulement fatigue, par exemple qui vous apparaissent comme la personnification « voyez-vous », mais, et c'est assez intéressant aussi dans le Cousin Ponce, qui est employé aussi souvent avec des verbes à l'indicatif présent, comme « vous le voyez »,« vous comprenez »,« vous y voyez »,« vous vous demandez », pages 184, 185, 188, qui inscrivent le narrateur comme sujet d'une action à l'intérieur du texte. Et c'est marqué dès l'incipit, lorsque vous promenez dans les boulevards, etc., en dévorant le chagrin causé par la trahison d'un ex-ami. Et ce pronom est également employé avec des verbes au conditionnel passé qui dessinent sinon une action du narrateur, une action qui aurait pu avoir lieu. Vous n'eussiez pas hésité, si vous eussiez été là, vous vous seriez demandé, vous l'auriez, vous l'eussiez difficilement, etc. Donc l'implication du narrateur est vraiment sans cesse évoquée, soit comme déjà réalisé, soit comme possible. Et ce narrateur peut être mentionné moins directement par l'emploi de pronoms ou de déterminants qui relèvent de la première personne du pluriel. Nous, l'Empire est déjà si loin de nous, Magus serait-il de notre musée ? Et qui comprennent donc un jeu et au moins une deuxième personne. Et avec aussi, bien sûr, un jeu de référence supposé partagé par le narrateur et le narrateur, l'emploi inclusif de la première personne du pluriel crée une connivence. Et ce qui est intéressant, c'est que ce « nous » peut servir à élargir ce rapport de connivence narrateur-narrateur au personnage. Je cite « Le vieillard finissait, comme nous finissons tous, par une manie poussée jusqu'à la folie. » Et enfin, bien sûr, dernier marqueur autour des pronoms, le narrateur peut être impliqué par l'usage du pronom unipersonnel « on », dont le caractère inclusif est moins marqué que nous, mais qui peut paraître tout aussi englobant. On reconnaissait qu'on doit accorder à pont, on peut deviner les écarts, on sait combien les Allemands, on ne se figure pas, qu'on juge, etc. » Au-delà donc des pronoms, le marqueur le plus évident, le narrateur peut également être inscrit dans le texte par des formules généralisantes qui englobent une quantité indéterminée de personnes. Et on peut, par exemple, je donne juste un exemple, je cite « La mélancolie excessive qui débordait par les yeux pâles de ce pauvre homme atteignait le moqueur et lui glaçait la plaisanterie sur les lèvres. On pensait aussitôt que la nature avait interdit à ce bonhomme d'exprimer la tendresse sous peine de faire rire une femme ou de l'affliger. Le français se tait devant ce malheur qui lui paraît le plus cruel de tous les malheurs, ne pouvoir plaire. » Page 56. Là, on a plusieurs formules généralisantes. Le moqueur, on, le français, dans lesquelles, ou au moins dans l'un desquelles, le lecteur peut-être se reconnaître. Et cette implication du narrateur peut être appuyée par l'emploi du présent prospectif ou du futur qui prévoit la réaction supposée du narrateur au texte. Donc je cite, page 62, « Au premier contour de cette esquisse biographique, tout le monde va s'écrier. » Page 101, « Combien de gens en Europe dont l'unique pensée est de venir demeurer à Paris seront agréablement surpris de savoir qu'on peut y être heureux avec 1200 francs de rente ?» Et encore une fois, ces verbes au futur peuvent excéder la simple expression de sentiments et prévoir une action. Page 147, tout le monde trouvera la conduite de la présidente horrible, mais en pareille circonstance, chaque mère imitera Madame Camuso, elle aimera mieux sacrifier l'honneur d'un étranger que celui de sa fille. Fin de la citation. Mais encore une fois, on retrouve aussi l'ironie narratorielle et ce caractère extrêmement assertif de ces formules peut être contrebalancé par des effets d'ironie. Je cite, certainement il atteignit au sublime. Et tout le monde en conviendra, car nous sommes dans un siècle où l'on donne le prix Montyon, à ceux qui font leur devoir en suivant les préceptes de l'Évangile. Et rappelons que ce prix peut désigner aussi bien un prix de vertu qu'un prix littéraire pour les ouvrages utiles aux bonnes mœurs. Et Balzac, qui avait eu pendant un temps l'ambition de le recevoir, le cite à plusieurs reprises ironiquement dans ses romans, et notamment dans Le Cousin Ponce, puisque le prix est mentionné à propos de la sauce de la cuisinière de Madame Popinot et de Madame Cibot, et de la nourriture de Madame Cibot. Donc, encore une fois, prise de distance avec ce jeu d'ironie. Alors, par manque de temps, je vais juste mentionner d'autres manières d'impliquer le narrateur, l'impératif, les interrogations, etc. Et montrer effectivement qu'il est important de dire que ce narrateur idéal, construit par l'énonciation narratoriale, est contrebalancé par l'esquisse d'un contre-narrateur repoussoir. Je cite « Ce phénomène, beaucoup de gens superficiels le traduiraient par le mot égoïsme. Une légère démonstration est nécessaire pour les incrédules », page 66, page 69. Ce qui peut permettre indirectement de souligner l'importance de la qualité de la lecture. Lorsque le narrateur déclare, par exemple, page 72, ce qui reste à dire sur le moral de ces deux êtres en est précisément le plus difficile à faire comprendre aux 99 centièmes des lecteurs. Est-ce que nous ne souhaitons pas immédiatement prouver que nous savons comprendre et faire partie de ces happy few? Remarquons également brièvement que le texte dessine avec certains personnages des négatifs, des incarnations de ces contre-modèles du lecteur. Par exemple, lorsque Madame Camusot et sa fille sont incapables de comprendre l'intérêt du récit de Ponce, de comprendre, je cite, la verve du vieil artiste, et lorsque Schmuck ne comprend rien aux explications de Ponce, lorsque Madame Camusot écoute avec difficulté Fraisier et ce qui lui apparaît comme des digressions de Fraisier, et le narrateur nous dit « Amélie, imitez les lecteurs impatients qui courent au dénouement du roman », page 262. Alors, simplement, très rapidement sur ce niveau méta-énonciatif, encore une fois, cette dimension méta-énonciative d'une lecture sérieuse est brouillée par des effets d'ironie, et le narrateur peut quelquefois jouer avec malice de ces figures du narrateur idéal et du conte-narrateur pour mieux affirmer l'authenticité de la fiction lorsqu'il nous dit, page 116, ces deux faits feront croire à quelques personnes que cette histoire est un roman. Mais dans Le Cousin Ponce, il ne s'agit pas uniquement de malicieuses déstabilisations, mais comme l'a montré Christelle Coulot dans son article sur les discordances du discours actorial dans Le Cousin Ponce sous la direction d'Aude Deruel, donc l'ouvrage qui est un ouvrage qui est paru en octobre, si je ne me trompe pas, Christelle Coulot parle d'un double mouvement de dégradation et de provocation, si bien que le discours narratorial, je la cite, n'hésite pas à mettre en doute sa propre fiabilité. Le discours narratorial peut se retourner contre lui-même dans la même phrase, voire brusquement s'interrompre. Donc, alors je passe sur quelques exemples qu'elle donne. J'en donne un que je lui reprends. Je cite le texte. En Italie et en Allemagne, les Français sont la raison de tous les malheurs, la cible de toutes les balles, mais le dieu poursuivant sa carrière, entre parenthèses, la suite comme dans l'ode de Lefranc de Pompignan. Alors que le début du discours semblait annoncer une digression sérieuse, l'interruption et le fait de renvoyer un autre texte pour désigner la narration semblent ôter tout sérieux et même toute originalité, inventivité romanesque à ce même discours. Brièvement, encore une fois, juste quelques pistes en conclusion. Donc, il semble qu'on retrouve dans Le Cousin Ponce un schéma narratif énonciatif tout à fait régulier et classique, on peut dire, du discours balzacien, qu'on retrouve dans d'autres romans de la comédie humaine, cette oscillation entre sérieux et ironie, cette polyphonie du discours du narrateur, cette construction d'un narrateur et d'un contre-narrateur qui joue sur la frontière fiction, réalité, récit et discours. Mais il semble que dans Le Cousin Ponce, le principe de contrepoint qui entre en écho avec la spécificité des tonalités, l'union de l'horrible et du comique, de la comédie terrible, et le mouvement d'ironisation, là je reprends un terme de Vincent Bierce qui me semble intéressant pour désigner par rapport au mot ironie un processus dynamique d'ironie qui s'attaque à toutes et à tous, ces deux principes sont particulièrement forts et semblent remettre particulièrement en question non seulement le sérieux mais la stabilité du discours narratorial et du discours romanesque. Mais cela a été également souligné par la critique à plusieurs reprises. Encore une fois, on a un contre-exemple à cette déstabilisation par la structure en boucle du roman qui remet en quelque sorte en scène sous d'autres traits les fameux observateurs anonymes du début du roman qui semblent revenir dans le salon de Madame Camusot, mais de manière plus avisée. Donc on a toujours ce jeu de déstabilisation et en même temps de contre-déstabilisation, et comme le dit Christelle Coulot, le réalisme, le pacte de croyance à la base de l'illusion réaliste semble se présenter plus sous l'aspect d'un, je la cite, d'un marché, d'une constante négociation que d'un donné. Et je voudrais seulement proposer une interprétation qui me semble des fois un peu laissée de côté quand on insiste sur ce caractère très déstabilisant de la façon dont le discours narratoriel peut se miner lui-même. Certes, Le Cousin Pan, c'est un roman très noir, et c'est peut-être une déformation à cause de mes propres sujets de recherche, mais il me semble aussi que ce jeu de remise en cause du discours narratorial par le discours narratorial lui-même peut aussi témoigner d'une certaine liberté drôlatique vis-à-vis de l'acte d'écriture romanesque. Et Le Cousin Ponce est aussi le roman d'une langue en liberté, d'une expérimentation langagière. Une de ces manifestations qui pour moi est vraiment très frappante, c'est la multitude des néologismes, et notamment des mots composés qui sont inventé, remanié vraiment des fois avec joie par le narrateur. Quand on pense à bric-à-brac, bric-à-bracologie, et encore la reprise du même mot avec l'accent de Schmuck. Et donc, Le Cousin, c'est peut-être justement parce que Le Cousin Ponce est un roman de la maturité qu'il peut se permettre aussi d'être un roman d'expérimentation, et on rejoint aussi d'inventivité romanesque. Et je pense que cette façon qu'a le discours de se déstabiliser lui-même n'est pas une négation très noire du discours auctorial et du discours du narrateur. C'est aussi, encore une fois, une manière de se permettre d'expérimenter. Merci.